Bonjour à tous et bienvenue dans le club 2.0. Aujourd'hui, donc, je suis avec mon équipe. On a le retour de Quentin. Salut Quentin.
Yes, salut.
J'espère que ça va mieux que la dernière fois, mais en tout cas, on verra si Loïs nous manque un petit peu. ensuite, on a Jenny. Salut Jenny.
Ok.
Salut les loulous.
Alors, ça s'est levé à 5h samedi. C'est un dimanche du coup. Pour le match de Fury.
Exactement, pour faire mon bon travail d'expert.
Ça marche. Salut Emric.
Bonjour tout le monde.
Moi, t'as suivi un peu le foot, t'as suivi quoi ça?
Oui, un peu comme t'as dit, parce que bon, il y avait des révisions, des dossiers à faire, mais j'ai suivi les gros matchs
Les dossiers, c'est secondaire ça.
Les gros matchs qu'on va parler tout à l'heure.
On parle pas de dossiers, les gens ils pensent qu'on est vraiment journaliste en fait.
Bah, du coup, c'est mieux, non?
Quoi?
Bah, qu'ils pensent qu'on est vraiment journaliste.
Bah, oui, mais il a parlé de dossiers à rendre, donc c'est mort du coup.
Ah, oui, bon, d'accord, bah, c'est pas grave.
C'est secondaire.
Du coup, je propose qu'on commence de parler de l'actualité la plus chaude, donc du match de Lyon qui était, c'était samedi,
ouais.
17h contre Lille. Donc est-ce que vous avez tous vu le match déjà?
Oui.
Bon, j'avoue que j'ai pas vu le match en direct parce que j'ai ragé au bout de 2-0, mais bon, je l'ai regardé en replay. Et donc je voulais avoir un peu vos avis sur le match, donc qui c'est qui veut commencer à parler un petit peu, donner son avis? Quentin, vas-y, t'es...
Allez, le comeback.
Yes. Comeback remarqué. Non, c'était un très beau match de foot, parce que souvent cette saison, j'ai l'habitude de critiquer l'OL, notamment leur jeu. Mais là, franchement, depuis le match contre Manchester City, ils continuent sur leur bonne lancée. J'ai l'impression que le nouveau système marche bien. Le nouveau système mis en place par Genesio, le 3-5-2.
Ouais, c'est une sorte de 3-5-2, un peu.
3-5-3
aussi. Grosso modo, c'est ça. Ouais.
Avec deux pistons sur les côtés. Ouais, il y a vraiment eu un beau jeu. Malgré le manque de réussite alarmant.
Alors, on rappelle que Loïc Rémy a marqué son premier but en Ligue 1 depuis 6 ans.
J'allais y venir.
Et que c'était déjà contre Lyon, et c'était à l'époque avec
pas mal le but contre
Marseille.
Très beau le but, ouais, très beau.
Pas mal.
Ouais, le manque de réussite, comme je dis, c'est vraiment dommage. Et c'est récurrent ça avec Lyon, franchement, s'ils avaient plus de réussite.
Après pour revenir sur le schéma tactique, moi je trouve que le 3-4-3, pardon,
ouais.
Ça permet beaucoup un jeu offensif pour les latéraux, mais aussi défensif. Parce que quand on à la perte du ballon, il se replie facilement.
Mais là, tu
aussi.
Vois, pour le coup, là,
ça crée l'équilibre.
On a mis Kenny Tété en piston parce que il n'y avait plus que lui. Donc, voilà. Mais j'aime bien Kenny Tété, mais c'est vrai que dans le rôle de piston, je pense que Raphaël, pour le coup, a peut-être plus sa place. Après, en tant que latéral droit pur, je pense que Kenny Tété est meilleur que Raphaël. Jenny, t'as pas entendu, vas-y.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où Kenny Tété, il est peut-être un petit peu inférieur à Raphaël pour ce qui est de coller la ligne de touche. Après, moi, dans ce système, j'aimerais beaucoup voir Kenny Tété aligné avec les trois de derrière, en fait. C'est juste que Marçal, certes, il a fait quelques bonnes sorties ces derniers temps, il a été pas mal solide contre Saint-Etienne. Mais je le testerais bien Kenny Tété sur la ligne de 3 derrière. Donc à la place
Le problème, c'est que Marçal, tu peux pas l'enlever parce que là, contre Saint-Etienne, il a fait un bon match. Contre City, il fait un bon match. Contre Lille, il fait plutôt un bon match aussi.
Ouais, après, donc, je trouve que ça s'essaye. Donc à voir après.
Quentin ?
Du coup, pour revenir à ce que disait Emeric, je suis d'accord avec lui. Ce système, en fait, il est plus sécurisant, notamment d'un point de vue défensif. Et pour revenir au match en lui-même, c'était vraiment un très beau match de foot, notamment le scénario.
Un très beau match de Ligue 1.
Très beau match de Ligue 1. Et en fait, chaque équipe aurait pu gagner. 2-0 pour Lille, qui est intraitable en contre-attaque, notamment, qui aurait pu mettre le 3-0 juste avant la mi-temps avec un poteau. En fait, Lyon qui revient 2-2. À la fin, il rate un pénalty aussi. Avec Memphis Depay, on revient au manque de réussite. À la fin, Fonte qui rate le cadre. Lopez qui est encore là. Franchement,
il faut dire que en avançant un petit peu, je pense que c'est peut-être le plus beau match de Ligue 1 que j'ai vu depuis le début de la saison. Il faudrait dire que Lille a quand même un très très bel effectif.
Ouais.
Ils ont un gardien qui est juste monstrueux, Mac Maignan. Qui était formé à Paris d'ailleurs, qui est un très très bon gardien. En défense, ils ont José Fonte qui a une expérience énormissime. Et puis devant la Bip, quoi, qui Bamba, il connaît Pépé, qui est une attaque.
Ouais, Pépé, d'ailleurs, faudrait qu'on en parle parce que là, la saison qu'il est en train de faire, c'est juste exceptionnel.
Du coup,
je
ne
sais pas s'il va poursuivre comme ça, mais.
Ouais, je voulais parler d'ailleurs offensivement des deux côtés, voilà, c'était spectaculaire. Offensivement, on sentait bien que du côté lillois, il y avait la fraîcheur physiquement. Mmh. C'est ça qui a un petit peu manqué à Lyon. C'est pour ça que je pense qu'ils ne gagnent pas.
Hein.
Oui, voilà. C'est cette fraîcheur-là qui ment parce qu'ils ont joué un match très intense. contre Manchester City à domicile et ils sont pas vraiment récompensés parce qu'ils font que match nul. Mais ils font match nul à Lille, surtout parce que voilà, physiquement, ils n'étaient pas,
pas, facile,
ils étaient pas à 100%. Et on a vu, hein, Memphis Depay, manque de lucidité sur son pénalty. C'est un des exemples qu'on peut citer. Donc,
oui, Quentin.
Pour terminer, je sais qu'on va en reparler tout à l'heure, notamment en évoquant le match contre Manchester City. Mais à Lyon, par contre, vraiment, quand on critique le jeu, là, ça va en ce moment. On peut critiquer le jeu des fois sur la saison lyonnaise et tout, mais par contre, individuellement, Aouar, Ndombele,
les monstres.
Fekir ne jouait pas contre Lille. Ferland Mendy, c'est un régal.
C'est clair que et le milieu, que ce soit contre City ou contre Lille, a vraiment été exceptionnel.
Et je sais qu'il y a des fervents défenseurs de Touzard. Voilà, moi, Touzard, j'en fais pas une friandise.
Pareil, d'ailleurs, je l'avais dit la semaine passée, franchement, ouais. Touzard, j'y arrive pas. Enfin, je veux dire, avec, comme tu dis, avec la qualité individuelle qu'il y a dans cet effectif de Lyon, c'est bon pour être un joueur de banc, un joueur de rotation.
Honnêtement, j'aime beaucoup.
C'est pas mal, mais dans le 11 titulaire, je pense, Antoine, rappelle-toi qu'il faut lever la main. Dans le
moi, j'ai le droit de pas lever.
Dans le 11 de départ, pour moi, il a pas sa place.
Bah, moi, j'aimais beaucoup Lucas Touzard, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Aujourd'hui, il a plus vraiment sa place dans le 11 titulaire de Lyon, en tout cas. Donc voilà, après, mon petit info mercato. Lyon aurait bouclé l'arrivée du jeune milieu argentin de Cruzeiro, ouais. Lucas Romero. Donc on verra dans quelle optique ça se met. Est-ce que ça signe un départ de Tanguy ou de Oussem, ou est-ce que tout simplement ça peut remplacer Jordan Ferry qui est parti à Nîmes. Donc on verra.
Juste pour terminer, notamment il y a Gianni qui me disait l'autre fois que Touzard, il est pas mauvais non plus, mais ça serait un bon joueur pour un joueur pour une équipe de Ligue 1 comme Rennes, Bordeaux,
non, mais ouais,
des trucs comme ça.
Après, le truc qui est important pour moi, c'est que Genesio, il faut vraiment aussi qu'il établisse une hiérarchie au niveau de son 11 de départ. Tu peux pas tout le temps, quand tu joues sur tous les tableaux, tu peux pas tout le temps modifier ton équipe type. Ouais. Je veux dire, ouais, Emery.
Ouais, la surprise de cette semaine, pour moi, c'est Maxwell Cornet aussi.
Ah oui.
Qui s'est blessé, qui d'ailleurs est contre Manchester City, et malheureusement, il se blesse contre Lille. Et ouais,
mais ça peut être justement, enfin, je vais pas ajouter de malheur, mais ça peut être une bonne chose pour Lyon. Parce que vu qu'il s'est blessé, il serait plus enclin à prolonger avec l'Olympique Lyonnais.
Voilà.
Mais quand même, il demande des garanties de temps de jeu et je pense qu'il peut les avoir vu encore la prestation. Bon, même s'il marque, Traoré a vraiment été, je pense, un des joueurs les moins bons contre Lille, avec peut-être avec Marcelo encore. Enfin, c'est toujours les mêmes. Et du coup, je pense que du coup, il peut gratter un petit pas mal de temps de jeu. Ouais, Quentin.
Et outre Ferland Mendy que j'adore. Vraiment, j'adore. En équipe de France, il n'a pas de chance parce qu'il y a Benjamin Mendy, Lucas Hernandez qui sont énormes aussi. À droite, il n'y a personne. Ça fout un peu. Vraiment,
ah, mais vu la saison de Benjamin Mendy, je pense que Fallon peut clairement jouer.
Peut-être, ouais. Mais ouais, le milieu de terrain, pour revenir à ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un milieu de terrain de l'OL aussi séduisant et efficace. Pas que séduisant, efficace. Aouar, il a une technique, il est complet, polyvalent. Même s'il a dit qu'il préférait jouer dans l'axe, hein, c'est bon. Ndombele, il a un impact. Il prend tous les ballons. C'est une rampe de lancement, mais incroyable. Ouais. Et ça ne me choque pas que des grosses écuries européennes toquent à la porte de l'OL.
Oui, s'il continue.
J'ai entendu Chelsea pour Aouar.
J'ai entendu que City était très insistant sur la paire Aouar et Ndombele.
Ah, sur les deux, ouais. Donc, moi, j'ai vu il n'y a pas si longtemps comme quoi apparemment Guardiola voudrait était très intéressé par Ndombele pour en faire le successeur de Fernandinho dans l'entrejeu de City. Donc,
après, c'est pas tout à fait le même poste hein, pour moi.
Oui, mais après, Ndombele est très polyvalent.
Après, avec le jeu de Guardiola, je pense que les postes au milieu de terrain, c'est assez relatif.
De Bruyne et Silva qui sont en milieu de terrain.
Aouar et Ndombele, ils sont ok, certes impressionnants offensivement, mais dans leur repli défensif aussi, niveau placement, ils sont nickel. Hein. Ils ont récupéré énormément de ballons hein, contre les Mancuniens. Là,
d'ailleurs, ça fait une bonne transition vu qu'on va parler maintenant. Je pense qu'on a fait le tour du match contre Lille.
Ils assurent
défensivement. On va faire un peu le tour des matchs de Coupe d'Europe de nos équipes françaises qui ont été plutôt intéressantes. Bon, sauf une, hein, vous devinerez laquelle. Il faut
s'en rappeler parce que c'est pas super frais dans les têtes là, du coup.
Bah, après, voilà, on va commencer par le match de Lyon. Bon, ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match.
Cornet qui sort le match de sa vie encore une fois.
Ouais, trois buts en Ligue des Champions, tous contre Manchester City. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je pense que le gros point faible, ça reste quand même Marcelo.
Il y avait une stat, juste pour revenir sur Cornet, une stat comme quoi sur tous les buts que s'est pris Manchester City cette saison. Cornet, du coup, avec ses 3 buts en tout, je crois qu'il représente quelque chose comme 70%, non, un peu moins, mais il a un beau pourcentage de bah, au niveau des buts
tout
que
seul,
sont pris City, ouais.
Et Rico, tu veux parler ?
Ouais, moi, je voulais dire que contre Manchester City, j'ai eu un petit peu de la peine pour les défenseurs lyonnais. Parce que contre Saint-Etienne, lors du derby, ils ont bien tenu défensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés de Stéphanois. On savait tous que Saint-Etienne marquait souvent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Et contre Manchester City, Lyon, ils encaissent bizarrement des buts
après,
sur corner et
je suis pas trop d'accord parce que pour moi, la défense a plutôt bien tenu. C'est Marcelo qui est fautif sur les buts.
C'est des fautes d'inattention.
Ouais, mais
la porte,
c'est
il
que...
est seul quand il met son but de la tête.
Puis surtout, attends, on parle de Marcelo, mais c'est surtout sur le but d'Agüero.
Et Marcel, voilà.
Bah, je veux dire que
Marcel est trop court pour être au marquage.
Mais encore, tu vois, Marcel.
Se faire battre de la tête par Agüero en duel 1 contre 1, c'est.
Agüero, il fait quoi, 1m70?
Il fait 1m73, très exactement. D'ailleurs, très bien souligné par Eric Dimico pendant le match. Il en revenait pas.
Le problème, c'est qu'on peut pas faire des grands matchs si celui qui est censé être notre pilier défensif n'est pas au niveau. Quoi.
Bah, le truc, c'est qu'il tenait très bien la barre avec l'année passée, mais cette année, vraiment, c'est la débandade. Oui, Quentin ?
Après, oui, Marcelo, il n'est vraiment pas exemple de tout reproche, mais faut pas non plus tout mettre sur le dos de Marcelo. C'est vrai que Lyon a fait une prestation incroyable contre Manchester City. Après, c'est vrai que c'est, comme disait Emeric, c'est dommage des erreurs de concentration coup sur coup après les deux buts.
Oui.
Lionel,
le deuxième, on le prend vraiment sur l'action d'après. Quoi. Le deuxième but, le but d'Agüero, on le prend vraiment sur l'action.
Après, il y a Antoine, tu me disais que tu avais l'impression que Manchester City cherchait le nul et en fait ils accéléraient quand Lyon marquait.
Mais voilà, mais en fait on a l'impression que City, dès qu'ils ont accéléré le jeu, ils ont marqué en fait.
Bah,
dès qu'ils ont mis
quoi.
Un petit coup
voilà.
de pression,
c'est ça.
Lyon, ils n'avaient pas assez fermé aussi.
Après, ça m'étonne parce que les équipes de Guardiola, c'est rarement des équipes qui jouent le nul.
C'est ça qui me choquait
parce
en fait.
Que ouais. Je suis pas sûr de.
Je suis pas sûr. Non, mais au final, c'est l'impression que ça laissait. Mais moi, je suis pas sûr parce qu'au final, sur le bilan de cette phase de poule, ça fait une victoire pour Lyon. Il y a un match nul et sur le contenu des deux matchs, honnêtement, on a vraiment vu que City, ça avait l'air d'être une équipe qui réussit plutôt bien à Lyon. Après, je sais pas si ce serait la même chose en phase d'élimination, enfin en phase aller-retour, mais ouais.
Et mais la réaction de Guardiola après le match était juste sublime, quoi. Quand il a dit que Lyon était une très bonne équipe,
c'est
Guardiola qui te dit ça, tu vois. Ça
et qu'il a dit qu'il y avait de très grands talents dans le championnat de France.
Et qu'il va tous nous les piquer.
Et qu'est-ce que je veux dire ouais, il y a un truc qu'il faut noter et qui est exceptionnel quand même, c'est que le milieu de l'OL a surclassé le milieu de Manchester City de Guardiola.
Ils les ont bouffés.
Et le milieu de Guardiola, que ça soit au Barça, Bayern, City, c'est la pierre angulaire de son système de jeu.
Après, c'est énorme, mais bon, faut quand même un peu nuancer parce qu'il n'y a pas la pièce maîtresse du milieu de terrain.
De Bruyne.
Non,
et puis aussi, faut rappeler aussi qu'il manquait le cas Gundogan, qui a fait un bon match.
Gundogan, dans tous les cas, il est super sub au milieu.
Ouais,
enfin,
mais
je veux dire,
bon.
Il rentre quasiment à tous les matchs et en plus, il met ses petits pions, mais... Ouais,
je suis pas d'accord, faut pas dire qu'il y avait pas De Bruyne, il y avait pas Gundogan. Regarde le milieu, mais c'est incroyable quand même. Enfin,
non, mais sur le papier, ça reste incroyable.
Ils étaient en infériorité numérique aussi. Les
après, moi je trouve que Fernandinho a clairement perdu de niveau.
Il y avait que Aouar et Dembélé.
À peine, non, il y avait que Fernandinho, si je me rappelle bien. Et puis c'était David Silva qui faisait les
rencontres. Même Silva a pas été au top niveau.
Offensivement, Guardiola, il met Sterling, Mahrez, Agüero. Et l'autre.
Il pas Sané, si.
Et Sané.
Ouais, en fait, il met contre Lyon. Guardiola, même Mahrez avec les trois du milieu.
C'est ultra
en fait.
Offensif.
C'est ultra offensif.
Ouais, mais ça, c'est sa marque de fabrique. Il le faisait déjà avec David Silva et De Bruyne et ça marchait.
Oui, il faut qu'on parle vraiment d'Emeric Laporte.
Après, non, mais c'est vrai que là, justement, il a dû. Enfin, il bricole un petit peu parce que, bah, justement, il y a la pierre angulaire du milieu de terrain qui est pas là pour l'instant.
Il faut qu'on parle vraiment d'Emeric Laporte qui a encore fait un match.
Si seulement il était
nuançons, hein.
Si
il
seulement
est
il était
sur
français
sur le deuxième but. Hein.
Ouais, mais bon après Walker est pas à son poste.
Ouais.
Bon voilà.
Seulement il était français d'ailleurs.
Ouais. Non mais on a déjà Mamadou Sakho et Kurt Zouma donc.
Adil Rami,
ah bah ça va alors.
Tout va bien. Non mais voilà, il a encore fait un match exceptionnel. Il relance City à un moment où ils étaient dans le dur. Donc voilà, je pense que faut que Deschamps essaye d'envisager de le sélectionner, quoi. Ça serait pas mal. Parce que bon, c'est pas comme si on était très fourni en talent en ce moment, poste de défenseur central. Donc je pense que ça peut être pas mal, là, qu'on a, on a eu le tirage des poules de l'Euro.
On
là.
Va en parler après, ça.
On a eu une très grosse poule, hein, je sais pas si vous avez vu, avec notamment...
La chatte à des encore.
Avec notamment Andorre.
Elle est sympa, elle est sympa.
Ouais, elle est sympa. Turc,
non, mais elle est pas très dure, mais elle est sympa.
Squash, alors, Turquie, honnêtement, Islande, les Turcs, ça aurait pu être. Enfin, Turquie et Islande, ça aurait pu être des gros morceaux.
Mais dans leur forme actuelle.
Ils sont vraiment dans un creux générationnel, les deux, en fait.
Après, c'est original, quoi.
Si on squash pas ce groupe, moi, je comprends plus rien. La Moldavie,
non, mais
Andorre.
Ça va être tranquille, ça va être tranquille.
Oui, mais après, il faut les jouer, quoi.
On parlait
c'est
quoi.
L'Islande qui sera un petit peu difficile.
On est encore sur la Coupe d'Europe.
Non, de Laporte, justement. Laporte, franchement, c'est un défenseur que Guardiola adore. C'est des défenseurs techniques. C'est-à-dire bon relanceur,
il est tellement
bon passeur qui se projette aussi. C'est-à-dire que je parie que tu le mets au milieu de terrain.
Oui, ça fonctionne.
Il se débrouille.
Mais c'est pour ça que quand il arrivait à City, il jouait latéral gauche une période. Il était pas mauvais en latéral gauche. C'est vraiment le défenseur typique espagnol, tu vois.
C'est
vraiment le profil du défenseur moderne. Enfin, ouais. Vraiment,
parce que Guardiola, en fait, son équipe, elle lui ressemble. Elle lui ressemble vraiment, que ça soit à Barça, ou Bayern, Manchester City.
C'est ça. C'est le défenseur moderne.
En tout cas, il y a eu un match comme plutôt propre dans l'ensemble. J'ai pas trop vu de flop côté lyonnais, à part Marcelo.
Ouais,
mais,
Marcelo.
Mais sinon, franchement, tout le monde a été au niveau. Et Lopez a encore fait un match de dingue. Voilà, je pense que clairement, il mérite son titre de gardien de la saison à la fin de l'année. Je pense que
Buffon et Areola sont pas mal, même s'ils ont moins de boulot à faire. Mais il y en a pas mal
après,
aussi.
Après, le truc, c'est que justement, Buffon et Areola, je pense qu'ils seront un peu. Enfin, ça leur portera un peu préjudice de se partager la tâche aussi souvent. Alors que Lopez, il a vraiment l'occasion de briller.
Après,
dans tous les cas, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre du trophée de meilleur gardien de la saison au trophée UNFP?
Après, ça fait une distinction quand même.
Après, on sait que quand t'es un joueur du Paris Saint-Germain. T'as quand même plus d'exposition, t'as plus de chances.
Après, clairement, j'ai un énorme respect pour Buffon. Mais cette saison, si un gardien mérite le titre, c'est vraiment
Lopez. Pour moi aussi.
Voilà. Même quand Saint-Etienne, il a fait de très belles arrêts.
Ouais, mais à tous les matchs quasiment.
À tous les matchs, il sort au moins une parade qui vaut autant qu'un but.
Mmh. Ouais, exactement.
Mais ce qui doit rattraper le boulot de Marcelo. Voilà. donc on va faire un petit aparté sur le Paris Saint-Germain qui est un petit peu dans la même carrément dans la même situation que Lyon, puisque Lyon, on va rappeler, doit aller chercher sa qualif en Ukraine. Bon, on ne sait pas encore où, parce que vu que c'est un petit peu le bordel.
D'ailleurs,
en
ça
Ukraine.
Va être compliqué. Je suis un peu pessimiste.
Pareil, franchement.
C'est pas que je suis pessimiste,
plus,
mais vu la chance qu'on a, je le sens arriver gros comme une maison.
Bah après, le truc, c'est que c'est même pas une question de chance, mais quand tu vois que le Shakhtar est venu à Lyon, a dominé Lyon, et qu'on arrache le nul un peu de miraculeusement, quand tu te dis qu'il faut aller là-bas, c'est pas super super rassurant.
C'est vrai qu'en Ukraine, c'est très compliqué.
On sait même pas où est-ce qu'on va jouer le match encore, parce que
avec la guerre et tout, c'est
on peut
la
pas
galère.
Le jouer, on peut pas le jouer dans le match de
même
du Shakhtar.
Sans parler de l'extra sportif, le Shakhtar, c'est vraiment une très très belle équipe.
Ouais. Et à domicile, qui est très difficile à prendre, même si City est allé gagner 6-0
après,
là-bas.
Il faut, ça va vite aussi.
Après, faut pas croire, hein, pour Paris, ça va être très compliqué aussi, hein, parce qu'aller jouer en Serbie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Hein.
Justement,
ils sont chauds là-bas.
On peut revenir sur le match du Paris Saint-Germain quand même, contre Liverpool.
Ouais.
Déjà, ce groupe, c'est vraiment le groupe de la mort, on le voyait avant. Et là, franchement, ce match, avant qu'il commence, j'avais peur d'être déçu avec ce qu'ils nous avaient proposé en Ligue des Champions. Mais c'était une vraie réussite, dans l'envie surtout.
Voilà.
C'était des morts de faim. Je sais pas si c'est le maillot blanc qui a changé quelque chose, mais des morts de faim. Silva, méconnaissable.
Thiago Silva a vraiment fait un match de fou.
Je pense que Thiago Silva, c'est vraiment son match référence au niveau clairement. Coupe d'Europe depuis qu'il est arrivé en Europe, en fait. Même en comptant sa carrière à Milan, c'est son match référence.
Après, je mettrai quand même un petit bémol sur Verratti, que j'ai pas trouvé.
Qui doit être expulsé.
Ouais, oui, en plus.
Vrai. Je
ouais.
sais même pas comment il reste sur le terrain, mais Neymar, masterclass.
Quand il
a envie, quand il est concerné comme ça, il joue avec ses partenaires, c'est un régal.
Tu vois, ce que j'aime beaucoup chez Neymar, c'est que contrairement à ce qu'on reprochait à Zlatan, c'est que Neymar répond vraiment présent dans les gros matchs. La plupart du temps.
Ça dépend. Depuis son passage au PSG, c'est un peu à nuancer. C'est un peu à nuancer.
Ouais. Oui.
Mais moi, ce qui m'a surpris et j'ai vraiment aimé cet aspect-là, c'est au niveau de l'envie. Les gars, ils ont joué en équipe. Et ça, c'est agréable. C'était
en
pas
même temps,
des
ils
séries
étaient un peu obligés. Vu le
justement, j'aime
ouais, pas. C'était pas des séries d'individualité.
Ils étaient obligés, mais avec Emile.
Et c'est pour ça avec que Emile. Tu aimes Neymar comme ça. C'est pour ça que vous aimiez aussi Thiago Silva. Parce que voilà, ils étaient compacts. Thiago mais... Silva, il est compact avec Marquinhos et c'est latéraux.
Tu dis qu'ils étaient
Neymar
obligés.
Neymar a joué avec.
Non, mais
avec Emery, il le faisait pas.
Avec Mbappé aussi.
Avec Emery, ça faisait pas.
Ils ont jamais été dans cette situation de.
Non, mais je suis désolé. Mais par exemple, quand tu vois la remontada. Ouais. Ils ont pas eu ce
attends, on va pas revenir sur ça, il y a plusieurs facteurs, on va pas revenir sur ça, okay.
Ça y est, c'est l'arbitre,
non, oui, on va pas revenir sur ça. Et
Même ils ont pas eu
pour revenir au match, pour se reconcentrer sur le match, si je dois mettre trois petits bémols, c'est comme il a dit Verratti, tu sais pas comment il finit le match, même on l'a vu contre Bordeaux hier, il se prend encore en jaune.
Non, mais au-delà
de ça, insupportable.
Au-delà de ça, il est pas au niveau en ce moment.
Non, c'est même pas son niveau. Après, les deux autres bémols, c'est Cavani que depuis beaucoup de matchs quand même, il est un peu invisible.
Après, il faut savoir que Cavani, c'est un joueur,
pas beaucoup.
C'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect.
Ouais, voilà. Et là, je sens que en fait, Cavani, clairement,
là,
c'est la fin de son
dedans,
époque au PSG.
Dedans.
Clairement, il y a un grand intérêt de Naples. Et je pense que cet été, Cavani au PSG, c'est plié.
Ouais, mais Cavani, j'ai envie de te dire que c'est Emery qui a relancé Cavani. Parce qu'il était dans le mal quand Laurent Blanc était parti.
C'est vrai, déjà.
Bah après,
il
n'y
a pas de
soucis.
Cavani,
plus.
Franchement, je ne me fais pas trop de soucis sur son application. Jusqu'à la fin de la saison, il continuera
c'est un
à
grand
se donner
professionnel.
À fond.
Ça, c'est pas oublié, c'est
que... il va marquer son gros quota de but. Mais cet été, je le vois partir, honnêtement.
Mais voilà. Et en plus de Cavani, il y a aussi un autre bémol. Peut-être que vous attendez moins, mais c'est Mbappé. Mbappé, depuis quelques matchs, il est pas dégueulasse.
C'est bizarre d'entendre Mbappé, non ?
Mbappé.
C'est Mbappé.
Il est pas dégueulasse.
Mbappé.
Mais je sais pas, il y a du moins bon, vraiment. Il y a vraiment du moins bon. Il pèse plus sur les rencontres comme il pesait au début de la saison.
Honnêtement, je vois pas en, quoi, parce que hier, il marque son but.
Ouais, non mais voilà, niveau stats, oui. Mais dans le jeu et tout...
Après, moi, Mbappé, je te parle de sa période Paris Saint-Germain parce qu'à Monaco, il portait vraiment l'équipe de bout en bout. Mais au PSG, je trouve que Mbappé, c'est plutôt des éclairs vraiment très réguliers.
Ouais.
Mais sur les matchs complets, c'est pas un joueur qui va forcément dominer un match de bout en bout. Mais ses éclairs vont faire la différence dans 95% des
si,
cas.
Mais
si,
c'est un peu ça aussi. Hein,
non,
quand tu vois ça,
tu peux pas.
Si.
Tu peux pas.
Mais si, il y a quand même beaucoup plus d'influence sur le
bien
jeu du Barça.
Bah non, parce qu'après, il a plus d'expérience. Mais moi, je me rappelle au début de sa carrière, Messi, c'était quand même pas mal de fulgurance aussi.
Ouais, non, là je suis désolé, mais
ouais.
Je suis pas du tout.
Mais si, il est toujours impliqué dans les buts,
bien sûr.
Sur les buts.
Ouais.
Mais
si tu peux faire un top 10 de ses passes décisives en carrière qui sera aussi génial que son top 10 de buts, quoi. C'est, il a, tu vois, mais même ses courses.
Est-ce qu'il sera aussi génial que le top but de Olivier Giroud?
Ah,
est-ce qu'il sera aussi génial
je ne pense pas.
Que le top 10 de Gaëtan Laborde à la fin de la saison? Je ne pense pas.
Qui fait une grosse saison d'ailleurs, Gaëtan Laborde.
Saison, Montpellier deuxième.
Ouais, bon,
voilà.
On peut arrêter.
En attendant.
Du coup, pour faire un petit récapitulatif au niveau du tableau, Liverpool, ils sont, le Paris Saint-Germain, ils sont dans une position très favorable pour la qualification.
Après,
certes, faut aller jouer
attention,
à Belgrade.
Hein, à Belgrade,
qui ont fait un nul contre Naples et qui ont battu Liverpool 2-0.
Non, mais après, j'aimerais clairement plus être à la place du PSG qu'être à la place de Naples.
Ouais.
Naples sont bien partis pour avoir la place du con, ce qui est
voilà.
Super cruel, alors qu'ils ont fait une grosse
alors
campagne.
Que c'était... Et justement, ce groupe, il est fou. Parce qu'à la base, c'était Naples qui avait la bonne position. Et là, bah, clairement, pour moi, mes pronos, ils sont simples. Paris Saint-Germain va se qualifier premier. Et Liverpool, deuxième, Anfield, pour moi, ils ne peuvent pas perdre contre Naples.
Là, en fait, Naples est condamné à... Enfin, pas condamné à l'exploit, mais
nul.
C'est vrai que c'est... À Anfield, Liverpool, c'est compliqué.
C'est super cruel pour Naples.
Naples les a tapés à San Paolo. Donc
mais c'est pas la même histoire.
C'est cruel pour Naples qui fait une très bonne, phase de
poule. Au final, Naples, je pense que si jamais ils finissent troisième, le gros regret pour Naples, ce serait vraiment le premier match contre le PSG.
Après,
le match à Belgrade.
Oui, et le but de Di Maria.
Après, on peut se dire que peut-être que les défenseurs napolitains, ils vont tenir face au Liverpool.
Après, ça ressemble pas trop à.
Après,
les équipes italiennes,
c'est
ça.
Compliqué quand même.
Mais Naples, pas trop.
Moi, Naples, je les vois pas se recroqueviller en défense. Même à Anfield, je les vois pas se recroqueviller. Même c'est pas. C'est
non,
Ancelotti,
c'est...
je le vois pas.
C'est offensif.
Ancelotti, c'est très offensif.
Je suis pas
sûr
que. Et par contre, s'il y a un point positif pour Naples à retenir, s'il termine 3e en Europa League, ça peut faire mal. Hein.
En après, Europa, ça dépend.
Après, il y a du monde.
En Europa League,
il y a du monde, mais t'as vu contre qui ils ont joué ? Liverpool, Paris Saint-Germain,
oui,
ils ont
en Europa League, il y a pas trop. Il y a pas
d'être ridicule. Hein.
En Europa League, il y a pas tout le temps de logique dans le sens où les clubs délaissent un peu cette compétition. À chaque fois, quand tu regardes arriver les demi, t'as toujours des clubs surprises comme l'année passée, t'as Marseille et le Red Bull de Salzbourg en demi. Ouais, je pense que tu peux voir ça sur les années précédentes. Les clubs, ils délaissent un peu.
L'année où il y avait eu Dnipro Petrovsk
en finale. Maintenant, Naples, vu comment ils sont obsédés par le fait d'avoir ce titre en Serie A qui les fuit depuis tant d'années, s'ils sont renversés en Europa, je pense pas qu'ils joueront l'Europa à fond. Après, je peux me tromper, mais
ça sera compliqué.
Du coup, petite transition pour l'Europa dont on va parler un petit peu quand même. D'ailleurs, petite info,
Monaco,
l'UEFA, Monaco.
C'est terminé.
Je pense que personne n'a envie d'en parler.
Ouais. Du coup, je sais pas si vous avez, mais l'UEFA a vraiment confirmé la C5 là.
Alors ça, j'ai vu.
La nouvelle compétition pour
l'Europa League 2.
C'est ça. Alors ça, par contre, c'est
favoriser les petites fédérations à part.
Non, mais ça sert à rien. Enfin,
et du coup, on en avait parlé un peu la semaine passée, mais du coup, les troisièmes de poule en Europa League sont reversés dans cette compétition.
Ah, bah, justement, si je peux dire un petit mot sur ça, moi, c'est vraiment mon gros coup de gueule. Me dégoûte. Ça perd vraiment de la valeur d'une coupe européenne. Mais maintenant,
ça crée la hiérarchie, pardon. Vraiment.
Franchement, ça. Allez, on va me dire que je suis un peu conservateur, peut-être, mais. La Ligue des Champions, l'Europa League, mais touchez pas.
La Ligue des Champions, c'est pour les gros. L'Europa League, c'est pour les clubs moyens.
Oui,
et
mais...
la petite, la nouvelle, mais
non,
c'est
mais
pour les
besoin.
Petits clubs.
Il n'y a pas besoin.
Non, puis en fait, c'est quoi
hors
ça veut
sport,
dire qu'en
c'est
gros,
hors sportif.
T'es nul en Ligue des Champions, tu descends en Europa League et t'es nul en Europa League,
c'est
pas ça.
Mais
le
du
sport,
coup, quelle valeur a le trophée de l'UEFL 2 ?
Ce n'est pas les valeurs du sport, ça.
Après, c'est vrai que dans... En plus, il y a aussi l'aspect séduisant. Qui va regarder cette compétition ?
Voilà aussi.
Déjà, qui va regarder
cette compétition ?
Après, c'est vrai que... Bon, on est d'accord, c'est du business. Hein. C'est absolument pas pour ça qu'ils la font. Mais l'argument, c'est pour les plus petites fédérations, peut se défendre.
Non.
J'apporte une nuance quand même.
C'est pour la thune. C'est pour
Ce sera pour la thune à terme, mais ça permettra
quand même à des
petits clubs de se mettre en
évidence
dans cette
compétition. Admettons Marseille ou Lyon, ils font une campagne de merde, ils sont reversés là-dedans. Enfin, c'est un peu la honte, quoi.
Non, mais surtout,
il faudrait la gagner pour limiter la honte.
Est-ce que demain tu seras prêt à poser une grosse somme sur Marseille s'ils sont dans cette compétition ? Moi, je pose pas une thune sur un club dans cette compétition.
Mais les clubs qui vont jouer cette compétition, comme tu me dis, Lyon, Marseille, mais il y a aucun mérite.
Enfin, même si tu la gagnes, c'est de la merde.
Non, mais
ça sera
les équipes qui vont gagner là, ça va être Salzbourg, ça va être Anderlecht.
Même pas Anderlecht et Salzbourg, c'est des équipes qui n'ont
rien
à faire
plus haut.
Mais
par
contre, le truc,
ça va être Karabag.
Ça va être ça. Karabag.
On dirait la Ligue des Nations. La Ligue D avec Liechtenstein, Île Féroé.
La poigne Nicosie et tous les trucs. Non, mais après, le truc, c'est par contre, moi je serais curieux de savoir comment va se passer le système de qualification dans les championnats en fait. Genre, t'as combien de places pour chaque championnat ?
Le 18e va être qualifié pour l'UFL 2.
Ouais.
Ah, mais nous, ça va être quoi ? Ça va être Toulouse, en fait.
Bah, en fait, ce serait logique.
Non, nous, ça va être Rennes, Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est Europa League.
Non, mais le truc, c'est que.
7e, 8e de Ligue
1. Non, ça va être Nantes, Montpellier,
des
trucs comme ça.
Ce qui serait logique, c'est que si c'est pour avantager les plus petites fédérations, donc normalement, ces petites fédérations, elles devraient avoir une part plus importante que les 5 gros championnats. Donc, comment ça s'organise ? Il y a un seul qualifié parmi les 5 grands championnats ? Je comprends
pas. Déjà, comme tu dis, mais pour moi, les plus petites, fédérations, mais c'est l'Europa League déjà en fait.
Ouais.
Mais c'est encore plus petit.
C'est encore en dessous de l'Europa League apparemment.
T'as vu les équipes qu'il y a en Europa League ?
Non, mais oui, mais des fois il y a des équipes.
Non, Legia Varsovie c'était en Ligue des Champions en plus l'année dernière.
Ouais.
Mais Karabag, Limassol, tu peux faire
ça
encore
ça,
moins bien.
D'ailleurs, je me suis un peu intéressé, mais il y a Milan qui jouait contre un club en poule, qui jouait contre un club luxembourgeois du Lange. C'est des amateurs.
Le club de Milan,
c'est des amateurs. Ouais, mais c'est pas des professionnels
déjà.
En Europa League, déjà, t'as des clubs amateurs. Même si ça doit être rare, mais t'en as.
Déjà, je suis contre le système à 32 équipes en Europa League. Déjà. Pour réduire un peu les équipes comme ça qui n'ont rien à faire là pour moi. Mais...
Bon, du coup, on va terminer sur l'Europa League en disant que pour Marseille, c'est cuit. Vu qu'ils devaient sauver l'honneur contre Francfort, mais qu'ils ont pris 4-0.
Il n'y a pas d'honneur.
Il y a zéro
honneur. L'honneur, c'est de l'eau.
Il faudra gagner contre l'Apollon là. Au Vélodrome, c'est ça.
Non, mais même là, je pense que l'honneur.
Luis Gustavo va bien.
Ouais, je pense qu'il s'en fout en fait, clairement.
Non, mais là, c'est chaud. Hein.
Voilà. Donc Rennes peut encore, Rennes et Bordeaux peuvent encore se qualifier. Ouais. Donc c'est Bordeaux qui il faut qu'ils aillent gagner contre Copenhague, je crois. Et,
à Copenhague
ouais, c'est à Copenhague, ah, là, ça c'est compliqué. Très il faut qu'ils gagnent contre, ouais, contre Copenhague et que le Zénith s'impose contre le Slavia Prague.
Ah ouais, en ça, plus, ils n'ont pas leur destin donc, en main, ça sent vraiment mauvais.
C'est, donc c'est jouable, ça, ça mais ça va être tendu. Rennes, par contre, peut jouer une finale à jouer, il me semble.
Ouais, Rennes a son destin entre les mains.
Je sais plus contre quelle équipe, par contre, mais c'est pas Jablonec, quelque chose comme ça.
Attends, je vais essayer de te dire ça tout de suite.
En tout cas, ils ont une finale à jouer, ça c'est sûr.
Après donc, Rennes qui ont pris 4-1 à domicile contre Strasbourg là ce week-end.
Ouais, après c'est la Coupe d'Europe donc ça peut être différent.
Non, mais d'accord, mais les clubs français en Coupe d'Europe.
En tout cas, ce serait cool qu'on ait au moins voilà, Paris, Lyon, Bordeaux et Rennes qui continuent l'aventure.
Après,
Bordeaux...
moi, honnêtement, vu le niveau affiché cette année, j'y crois absolument pas. Mais vraiment, non, absolument même... pas. Après, la finale, du coup, oui, c'est franchement pour Rennes, si jamais Rennes se qualifie pas, sachant que leur finale, là, je viens de voir, c'est contre Astana à domicile.
Ah,
attention. Ils avaient perdu contre Astana
si
là-bas.
Fais pas ça,
honnêtement, honnêtement, je me méfie beaucoup, beaucoup.
Oui, t'as raison.
Astana, c'est quoi? C'est Kazakh?
Exact, ouais, c'est
ils avaient perdu au Kazakhstan, je me rappelle, 2-0. Donc,
ce serait une honte. Attention.
Non, mais honnêtement.
Par contre, pour Bordeaux, je mets pas une thune sur Bordeaux, j'y crois absolument pas.
Franchement,
on va finir là-dessus. T'as cru au match nul face au PSG?
Ah. Ouais, mais bon.
Ouais.
C'est un match.
Ouais, content, on finit.
Pour terminer sur l'Europa League, franchement, comme a dit Gianni, on s'en fout. Parce que même si Rennes et Bordeaux arrivent à se qualifier, ils vont tomber après quoi. Enfin, moi franchement,
après,
c'est
ça
Lyon,
contre qui
Lyon
hein,
et le Paris Saint-Germain. J'ai les yeux sur ça. Le niveau affiché par les équipes françaises cette année en Europa League, bah voilà quoi.
Enfin, ah, tu peux t'apparier sur Lyon, j'ai envie de
rendez-vous
dire.
Rendez-vous à l'année prochaine.
Ce serait,
je veux dire,
Paris Lyon en 8e de finale
encore
de Champions League.
Si tu te qualifies en 16e, il y a encore une chance parce qu'il me semble que les équipes de Ligue des Champions sont reversées qu'à partir des 8e,
ouais,
non?
C'est ça.
Donc tu peux encore tomber sur une équipe un peu jouable, mais je veux dire, vu le niveau affiché là, je veux dire, c'est soit un problème de niveau, soit ils en ont rien à foutre de la compétition, mais dans les deux cas,
c'est un problème de niveau.
Moi je pense plutôt que c'est un problème de niveau, mais dans les deux cas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de d'être éliminé en poule ou d'être éliminé en 16e?
Bah après, c'est une question d'honneur, tu vois, c'est quand même.
Allez, peut-être
cool,
une question
c'est financier
d'argent
aussi,
parce que
voilà,
ouais, c'est ça,
aussi,
tu gagnes
voilà,
des primes, mais voilà,
c'est, ça,
c'est juste ça.
Ouais, après, les primes dans l'Europa League, je pense que c'est dérisoire, sinon on voit.
Ça apprend quand
bah,
même.
Je pense que
ça
sinon,
apprend quand
on
même pour les clubs de Ligue 1,
ouais,
ça apprend.
Ouais, c'est vrai, mais bon. Après, ils n'ont pas l'air de t'en courir après que ça, vu comment ils délaissent cette compétition. Enfin, voilà.
Bon, allez, on referme la page foot. Qui était bien rempli cette semaine et on va passer à un petit chapitre box puisque dans la nuit de samedi et dimanche à 5h30 du matin on a eu le match de championnat du monde entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Donc est-ce qu'il y en a qui ont vu le match ici?
Oui,
Jenny, tu l'as vu?
Non, j'ai pas vu le match.
Moi,
mais
pour, je vais pas mentir, j'ai pas regardé le match mais j'ai vu le résumé.
Ouais, et Eric, tu l'as pas. Et
apparemment, ça a fait polémique. Non, je sais pas eu le temps de voir.
Ça a fait polémique, ouais, mais
bon, pas trop.
Ouais, c'est quand même. Enfin, ça a surtout fait. Après, c'est moins présent au niveau des médias, mais au niveau des fans, il y a vraiment un gros déversement de haine sur la décision des juges. En fait,
ah oui, c'est
tout
ça.
Tout le monde pensait.
Le match nul.
Tout le monde pensait que Fury méritait la victoire par décision.
Il faut savoir que Deontay Wilder, c'est déjà un mec qui est haï du public,
haï
qui n'est pas aimé en tout cas.
Bah ouais, après il est beaucoup controversé, on va dire, il est beaucoup controversé au niveau, enfin c'est au niveau déjà de son personnage,
donc je suis pas
et
sûr
ses performances.
Je suis pas sûr que les réactions étaient très objectives à certains moments, tu vois, parce que je me rappelle de la présentation des deux boxeurs quand même, alors que Deontay Wilder était dans son pays aux States,
ouais,
il s'est quand même fait bien hué hein, quand même. Hein,
après bon, sur l'ensemble du combat, pour ce qui est de la réaction du public, c'était assez partagé, je dirais, quand même. J'ai pas trouvé. Ouais, Quentin.
Non, termine.
Vas-y.
Juste pour dire un petit mot sur le match, parce qu'après je parlerai plus de ça. Je suis pas un expert, j'ai juste vu le résumé. Mais à ce qui paraît, la prestation a été pas mal, parce qu'en fait, on prédisait une victoire facile.
Bah, faut savoir que Tyson Fury avait plus boxé depuis 2 ans et demi.
C'est ça.
Non, Tyson Fury, il avait boxé cet été.
Oui,
c'était un match, un petit match contre
un
adversaire.
Il avait pas fait
classé
de gros matchs depuis 2 ans et demi. Et parce qu'il avait des problèmes extrasportifs, notamment il était contrôlé positif à la cocaïne.
J'avais entendu qu'au mieux,
ça fait mal, ça.
Fury était battu normalement. Au pire, il était humilié. Donc dans tous les cas, il était battu. Et là, il a vraiment tenu tête.
Après, en fait, voilà, la question, comme l'a dit Antoine, en fait, la question, c'est est-ce que Fury pouvait faire son grand retour au haut niveau, parce qu'il était déjà revenu cet été, mais c'était vraiment un combat d'échauffement contre un petit adversaire. Là, c'était un match de championnat contre Deontay Wilder. Donc, Deontay
Wilder, Wilder est connu pour vraiment être un très gros puncher. Et voilà, il est connu pour finir ses matchs assez rapidement.
Voilà, bah, avant ce match contre Tyson Fury, Deontay Wilder, c'était 40 combats, 39 KO. Donc, voilà, c'est un ratio énorme.
J'ai un petit coup de cœur pour la réaction d'après-match.
Il s'arrête pas finalement. Il est en feu, on l'arrête plus.
C'est les deux, ils ont provoqué un peu Anthony Joshua.
Ouais.
En disant t'es une poule mouillée.
Bah après, voilà, ça c'était un peu, c'était aussi un peu le gros enjeu de ce combat, dans le sens où le vainqueur devait directement, en toute logique, affronter Anthony Joshua pour un gros combat d'unification.
Alors que là il y aura un deuxième match entre les deux.
Là du coup t'es obligé. Mais en fait on a vu un super match déjà, donc ça c'est un bon point. On a vu vraiment super match de boxe. Ouais, donc c'est ça, c'est un bon point à noter.
Malgré un résultat frustrant.
Mais voilà, franchement.
C'est une histoire de match nul, c'est ça. C'est...
Oui, ça finit un match nul. En gros,
en fait, il y avait trois arbitres.
Le vainqueur qui avait la ceinture, il a conservé toujours sa ceinture.
Il y avait trois arbitres, il y en a un qui a donné la victoire.
Des juges.
Trois juges.
Non, l'arbitre, c'est celui qui a dans le ring.
Il y en a un qui a donné la victoire à Fury, l'autre à Wilder. Il y en a un qui a fait 113-113, match nul, fini sur un match nul.
Non, mais en fait, en gros, c'est le résultat. Moi, franchement, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre Tyson Fury. Au contraire, c'est une très très belle histoire parce que en plus d'avoir été contrôlé positif à la cocaïne,
le Gypsy King,
voilà, le roi des gitans, c'était une affaire aussi de dépression.
Tyson Fury a fait plusieurs tentatives de suicide.
Apparemment, tu aurais fait.
Il en a fait deux ou trois, je crois.
Ouais, apparemment, donc voilà, c'est une belle histoire, mais le résultat, en fait, ça m'énerve parce que c'est encore une fois. La boxe, c'est le sport le plus pourri par l'agent qui existe. Des fois, on parle du foot, mais la boxe, c'est 100 fois pire.
Je pense que c'est corrompu.
Non, rien qu'à voir, l'agent d'Anthony Joshua qui avait voulu faire signer un contrat totalement unilatéral à Deontay Wilder.
Ouais, Deontay Wilder. Et c'est pour ça qu'apparemment, le match entre Deontay Wilder et Anthony Joshua, c'est toujours pas fait. Mais même le fait de faire des matchs nuls, ça s'est déjà fait l'année passée. Pour ceux qui s'en rappelleront, le match entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin, ça avait donné aussi un match nul alors que tout le monde voyait Golovkin gagnant. Ils ont fait le match nul pour pouvoir ensuite faire le match revanche pour gagner encore plus d'argent.
Ça permet de faire monter une hype autour d'une rivalité.
Et là, c'est exactement le même processus qui a été répété. Et voilà, au final, c'est vraiment le sport le plus pourri par l'argent que je connaisse. Et des fois, ça vient même masquer le côté sportif, ce qui est un peu dommage.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait vraiment plaisir de revoir Tyson Fury reboxer à haut niveau.
C'est tellement une belle histoire, Fury.
Et puis ça me manquait, genre ces petites provocations là pendant les rounds où il se mettait.
C'est ça que j'aime bien aussi.
Il se mettait à danser devant Wilder.
Ce que j'aime bien dans la boxe ou MMA et tout, c'est qu'il y a toujours de belles histoires. Il y a le show, il y a.
Il y a vraiment
le côté américain
showman,
et tout, et vraiment c'est un plaisir pour les téléspectateurs.
Mais c'est ce que les gens veulent voir après. C'est pour ça que Conor McGregor a tellement une telle popularité, c'est parce que c'est beaucoup plus qu'un combattant.
C'est un showman, clairement. Voilà. Comme Ronda Rousey aussi. Baddest man, woman on the planet. Voilà. Après, je pense que le résultat reste quand même plutôt logique.
Plutôt logique, honnêtement, si Tyson Fury avait gagné, pourtant moi je suis plutôt fan de Deontay Wilder, mais si Tyson Fury avait gagné, il y avait rien à dire parce que, juste pour revenir un peu sur le côté un peu plus boxe, Tyson Fury il a vraiment une approche très technique. C'est pas un gros puncher, en tout cas vraiment pas aussi gros puncher que Wilder, mais il a une approche très technique, il a une boxe très propre et en boxe pure. Là, on s'en doutait déjà un peu, mais on l'a vraiment vu avec ce combat. En boxe pure, Tyson Fury est meilleur que Deontay Wilder.
Bah, donc, en fait, Fury est beaucoup plus dans une position attentiste que Wilder. Il attend l'ouverture. Wilder, c'est vraiment c'est le bourrin, quoi. C'est le puncher. C'est...
Mais en même temps, personne ne résiste à sa frappe. Honnêtement, Tyson Fury, le knockdown du dernier round, du coup, c'est miraculeux qu'il s'en relève. Mais honnêtement, si dans le match revanche, il se prend la même... franchement je le vois pas s'en relever
après,
de 50.
Très honnêtement je suis pas sûr que s'il prend pas le takedown s'il prend pas le knockdown je suis pas sûr que Wilder gagne.
Non, honnêtement, dans le 12e round, si jamais Tyson Fury se fait pas coucher, je pense qu'il gagne par décision. Mais en fait on voit que c'est incroyable parce que Tyson Fury, tu sais quelle est son arme. Tu sais exactement que c'est sa force de frappe, mais personne n'arrive à l'éviter en fait. Tout le monde se l'apprend et tout le monde se fait au moins coucher et dans 99% des cas, mettre KO. Tu sais ce qu'il va faire, mais tu peux pas l'éviter en fait.
Honnêtement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu Wilder sortir autant de son match. Tyson Fury, il a quand même bien réussi à le faire sortir, à le déconcentrer.
Ouais, avec ses mind games et tout, ouais, ouais. Mais c'était très ancré dans la rivalité, même avant les combats, il y avait beaucoup de petites piques de part et d'autre. Et ouais, c'est vrai que pendant le combat aussi, ça s'est revu. Mais ouais, moi en tout cas, je suis juste content encore, je suis juste content qu'on ait vu un très très beau combat de poids lourd. Et bah, malgré tout, j'ai hâte au match revanche, même si, bon, comme je l'ai dit, c'est un peu du sport business.
Du coup, je vais finir par une petite question, un petit sondage avant qu'on passe au quiz. Est-ce que vous pensez que Tyson Fury, dans quelques temps, peut aller inquiéter Anthony Joshua ?
Bah déjà, il faudrait que le combat se fasse, déjà, parce que c'est pas encore fait. Ouais. Les négociations, elles vont être très très longues, encore une fois. Mais après, Tyson Fury, sur la scène des poids lourds, c'est un combattant qui peut inquiéter n'importe qui, dont Anthony Joshua, je pense. Et dans tous les cas, que ça soit Deontay Wilder ou Tyson Fury qui combattent contre Joshua, ça va être le combat de boxe le plus attendu du siècle, et largement.
Wow. Oui, ça, oui, bah, ça, je pense que
sans parce qu'en fait, toutes les ceintures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera un match d'unification dans le sens où toutes les ceintures poids lourds, parce qu'on sait qu'en boxe, il y a 5 ceintures majeures, je crois.
Pour l'instant, Joshua en a 4, il me semble.
Ouais, et la dernière.
Et Wilder en fait, a une.
Ouais, voilà. Et la dernière, voilà. Donc, ce sera un match pour absolument tous les titres poids lourds. Donc, ce sera quelque chose d'absolument historique.
C'est
vrai
que celui qui gagne aura absolument tous les titres poids lourds.
Voilà.
Donc, ce sera le champion, voilà, un des plus grands champions de l'histoire.
Mais honnêtement, j'ai pas d'avis. Je m'y connais pas assez pour donner mon avis.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait un match très attendu.
De rien.
D'ailleurs, on citera l'avis de Louise qui voulait faire un match triple menace Tyson Fury,
Deontay
Wilder et Anthony Joshua. C'est une idée.
Pourquoi pas en match de l'échelle.
Voilà.
On accroche toutes les ceintures en haut et je pense que ça peut être une bonne option.
Bah écoute, on fera ça alors. Bon, maintenant on va passer au quiz. Je propose du coup qui a fait oui, t'avais
juste avant de faire le quiz, si je peux revenir juste sur un petit coup de cœur, c'est le match de Premier League ce week-end entre Arsenal et Tottenham 4-2 qui a été juste magnifique.
Tu pouvais pas le faire dans la partie.
Ouais, tu pouvais pas
non,
le faire.
Voilà, non, voilà, j'ai pensé maintenant, je le fais maintenant.
Ça,
voilà.
C'est tellement un gros coup de cœur que ça vaut une partie à part entière en fait.
Bon, alors quelle une partie, c'est pas
là, je me sens mieux, c'est bon.
Ah, mais il n'y a pas de suite en fait. Eh
ben, ah non, c'est juste un petit coup de cœur.
Moi, mon coup de cœur du week-end, c'est les 7-0 de l'OL féminine.
Eh bah, allez, c'est la fête.
Et bah, moi, mon coup de cœur, c'est le but de Jean-Philippe Mateta.
Voilà, et moi aussi, j'ai absolument le même coup de cœur. Quatrième but en 13 matchs de Jean-Philippe Mateta qui ne s'arrête pas. Il marche sur la Bundesliga. Le futur du foot mondial.
Deschamps le surveille.
À noter que ce soir, on rappelle. Élection ballon du ballon d'or.
Élection.
Ah oui.
Enfin, élection.
Donc, avec le podium potentiel, on rappelle Luka Modric qui serait lauréat, Cristiano Ronaldo qui serait deuxième.
Et Griezmann qui serait troisième.
Donc, on n'a pas de Varane, on n'a pas d'Mbappé. Enfin,
Je trouve que Ronaldo, c'est un petit peu un scandale.
On verra. On ne sait pas d'où
vient. Bon, après, sur le ballon d'or, je pense qu'on n'a rien à dire de plus que ce qu'on a dit la semaine passée. On a un peu tout dit.
Pour moi, ça sera Modric.
Quentin, t'étais pas là, donc.
Je n'ai rien à dire.
Tu peux te taire.
Voilà, c'est bon.
C'est bon, on peut passer au quiz. Donc du coup, qui a fait le quiz
Moi, j'ai fait le quiz.
Parce qu'on a deux quiz, en fait.
Ouais,
donc,
et moi aussi.
On j'ai a fait deux le quiz.
Bah, je propose que chacun pose quatre questions.
Non, on fait un après l'autre.
Mais on va pas en faire 40 des questions.
Ouais. Non, mais imagine.
Moi, j'ai que 5 questions parce qu'il y en a une dont la réponse a été donnée pendant l'émission. Donc je peux faire mes 5 questions et Aymeric complète.
D'accord.
Tu fais combien, 4 ?
Gianni commence.
Il fait 4, mais je fais 3 par exemple. Ou bien 4.
Ouais. Oui, bah tu fais 5 et d'accord. Tu fais 4.
Non, mais 4-4 on fait.
Ouais. Oh, bah allez, comme tu veux.
Bah allez, vas-y, bon. Du coup, je fais toutes mes questions à la suite et Aymeric fait
toutes
ses questions. Attends,
il faut prendre. Quelqu'un peut prendre les points ou pas ?
Non, mais c'est bon, on va s'en rappeler.
Juste, il faut faire quoi pour prendre la parole ?
Tu dis ton prénom.
Ouais, tu dis ton prénom.
Je connais pas mon prénom.
Ah bah c'est tant pis.
Je fais partie du quiz même si j'ai les questions.
Ah, Corentin va noter les points.
Non, ah bon bah c'est bon.
Tu réponds aux questions de Gianni.
D'accord. Mais nickel alors.
On t'écoute.
Alors.
Quentin.
il a perdu son tour à s'envoler.
Attends non. Bon alors donc on n'a pas parlé de basket donc cette émission c'est un peu le moment donc il y a déjà eu des grosses perfs en NBA. Il y a eu 8 joueurs jusqu'ici qui ont atteint la barre des 50 points ou plus, qui sont-ils et si jamais vous pouvez citer le nombre de points exact, c'est 0,5 en plus.
Antoine.
Allez.
Jokic.
Ouais.
Avec 51.
Et ben non, Jokic il est pas dans la liste, désolé.
Quentin.
Il y a un joueur, il a fait.
Il est pas dans la liste.
Quentin.
Il a pas mis plus de 50 points, Jokic.
Oh,
50 points ou plus.
Ouais.
Quentin. Ouais.
Au hasard, LeBron James.
Oui.
Je suis con. Pourquoi j'ai pas le LeBron ?
Combien de...
Je sais pas. Je te donne juste le prénom, tu prends ce qu'il y a à prendre.
Allez,
54.
Bah, voilà. Vous préférez qu'on fasse un point pour celui qui en dit le plus ou un point pour chaque réponse?
Un point chaque réponse.
Allez, non, bah, non, un point pour celui qui en dit le plus. Si,
non, bah non.
C'est bon. Un point pour celui qui dit le plus.
Bah ok, bon. Allez, Quentin, donc il en a un. Quelqu'un d'autre?
Trey Young.
Trey Young, non, c'est pas
moi,
du tout ça.
Je connais pas le nom, mais je sais qu'il y a un basketteur, il a fait 60 points, c'était un record. Il y a 2 semaines,
ouais,
peut-être.
Ouais, bah oui, il est dans la liste, mais
j'ai
faut
pas
que
le nom.
Luka Doncic, Kawhi Leonard.
Si, moi j'en ai un. Quentin.
Ouais.
J'ai son prénom. Yanis.
Non, Antetokounmpo, il est pas dans la liste non plus.
Et du coup,
vous êtes vraiment nul à chier.
Du coup, ni Leonard, ni Doncic.
Non, mais du coup.
Bon, bah James Harden.
Oui, James Harden.
Ok. Kevin Durant.
Oui.
Ok.
Stephen Curry.
Ça fait 3.
Oui. Stephen Curry, oui.
James Harden.
Tu l'as déjà dit.
Non.
Si, si, tu l'as dit.
Ça me retire.
Bon, allez, on va donner le point pour Quentin. Allez, vous êtes nul à chier.
Russell Westbrook.
Donc, pour info, c'était Kemba Walker 60 points, James Harden 54 points, Klay Thompson et LeBron James 52 points, Curry 51 points, Durant 51 points, Derrick Rose.
Putain, c'est lui que je cherchais, voilà.
50 points et Blake Griffin 50 points. Allez. Bon, bah, bravo.
C'est Derrick Rose que je cherchais, bordel.
Ça a été un fiasco. Donc, deuxième question. Donc, Quentin, ton coup de cœur, qu'est-ce que c'était?
Attends, c'était quoi mon coup de cœur? C'était Arsenal-Tottenham.
Oui,
Arsenal-Tottenham.
Le North London Derby.
Yes.
Yes. Du coup, quel est le meilleur buteur de l'histoire de ce derby?
Ah, je sais. Emmerich.
Oui.
Harry Kane.
Faux.
Non.
Et t'es content?
Oui.
Thierry Henry.
Faux. Je vous donne un petit indice. C'est un joueur qui a joué pour les deux équipes. Donc, du coup, ça l'a peut-être aidé. Hein.
Steve Malbranche.
Quentin.
Oui.
William Gallas.
Non, faux.
Alors, il joue plus, du coup, je suppose.
Est-ce que c'est vu un le classement
J'allais vous donner un indice. Il est techniquement encore en activité, mais si je vous donne l'indice, vous allez trouver direct.
Je l'ai vu le classement. En plus.
Oui.
C'est qui a joué pour les deux équipes?
C'est 10 buts. 10 buts.
Ah, c'est connu ou pas?
Oui, bien sûr, il est connu.
Bah. Emmanuel Adebayor.
Exactement.
Ah oh là là,
bien joué.
J'allais
bien
vous dire, ouais, il a été courtisé par Lyon il y a pas longtemps.
T'es
mais
sûr que c'est lui? Parce que je crois qu'il est deuxième, lui, Adebayor.
Écoute, moi j'ai vu ce matin.
Ça fait un point pour moi.
Non, mais ça m'étonne pas. Il a bien scoré dans les deux équipes.
Ouais. Ensuite, donc.
Il est dégoûté. En fait.
ne conteste pas mes sources qui sont Wikipédia.
Bah, tout va bien.
Tout va bien. Alors, troisième question. Donc, Arsenal s'est imposé 4-2 avec un doublé de
Aubameyang.
Il n'y avait pas de points en jeu. Quel était le dernier joueur à avoir inscrit un doublé lors de ce derby en première ligue?
Antoine.
Oui.
Harry Kane.
Oui. Et tu sais dire, tu saurais dire la saison, l'année,
2016.
Non, 2015, allez, putain,
je l'avais celle-là. Il était plus rapide.
Alors, j'en fais une quatrième. C'est bon, allez. Donc, dimanche, fin de série pour le PSG. Fin de série de victoire avec son match nul contre Bordeaux.
Okay.
À quand remontait la dernière non-victoire du PSG en Ligue 1?
Quentin.
Oui.
Bah, contre Caen.
Non.
Pas du tout?
Non.
Antoine. La non-victoire.
Ah non, je sais, putain.
Non, j'ai dit le nom. J'ai dit le prénom.
En championnat, t'as dit, hein?
Non.
En championnat,
Hein. C'était la 37e journée du dernier championnat.
Ah, je sais. C'était contre petit.
C'était pas Caen?
Non.
Quentin?
C'était pas Metz quand même.
Strasbourg?
Non.
C'était pas
Antoine.
Metz?
Nice?
Non. Nice, non. Vous allez toutes les faire?
Non.
Ah, laisse tomber. Attends.
Quentin, Bordeaux?
Non. Vous avez encore une réponse chacun, Antoine?
C'est une petite équipe ou une grosse équipe?
Une moyenne équipe.
Rennes.
Exactement. Défaite 2-0. Ah ouais. Victoire 2-0 de Rennes contre le PSG l'année passée.
Vrai,
37e journée de Ligue 1. Avec un but de Benjamin
Bourigeau.
Exactement.
Bourigeau.
Bourgeau. Après Genzi.
Benjamin Boulgour.
Benjamin, je m'excuse si tu m'entends.
Il t'entend pas. Voilà.
Du coup, c'est à moi de faire la suite du quiz.
Ouais.
Attends, du coup, c'est Emmerich Gain là? Ah non,
c'est
Antoine. Bon.
C'est Antoine.
Ok.
Donc, du coup...
Attends, je peux jouer du coup?
Ouais, là tu peux jouer.
Allez, vas-y, je joue.
Juste, est-ce qu'il y a des récompenses après?
Une
revalorisation salariale.
C'est ton
salaire. Nos salaires sont pas ouf.
Le dernier paye un panino qui a fait les filtres.
Okay. Voilà.
On va parler handball, donc Euro 2018.
Bon, allez, j'y vais. Salut les loulous.
Alors, quel est le score de l'équipe de France féminine?
Antoine.
Oh, Quentin.
La Slovénie.
Non, je l'ai dit avant.
Non,
Antoine.
Oui.
31-12. 32, je sais plus.
Non.
Gianni, Gianni.
Quentin.
Quentin, oui.
36-12.
Non, Gianni.
36-13.
Non.
36-13, allô, Père Noël.
Vous avez tous perdu.
Quentin.
Non, 36-16. On a tous perdu, c'est bon.
Vous
c'est
êtes
bon.
Loin. Allez, c'était 30-21.
Oh, en, même temps, on doit faire un quiz sur le sport et toi, tu nous fais une question handball.
Et féminin.
C'est bizarre quand même.
Oh là là, féminin.
Féminin, pas
je rigole ça.
Bon, ben, je reviens sur le foot. Hein.
Yes. Ah.
Arsenal est invaincu depuis combien de matchs, toutes compétitions confondues?
Gianni.
Vas-y, Gianni.
13.
Non. Antoine. Ah non.
8.
Vas-y. Non. Les Quentin. Gars, quand même.
3.
Non.
Ah oui, sacré série.
Bah, on a perdu.
Non, mais allez. Vous êtes loin. C'était 19 matchs, les gars.
Pardon. Ah ouais. Bah, attends, tu peux répéter la question,
j'étais
s'il te plaît.
Plus proche. Est-ce que je peux avoir un demi-point?
Non, non.
Emric,
moi, j'étais assez loin.
Moi, je mettais des demi-points.
Tu peux répéter la question, s'il te plaît?
Arsenal est invaincu depuis combien de matchs, toutes compétitions confondues?
19 matchs.
19 matchs, ils sont invaincus.
Ah ouais.
Ah ouais, d'accord. Bah, Unai.
La patte Unai.
Respect.
Gracias.
Après, ouais, non, mais je pense que en fait, c'était un peu alors parce qu'ils ont eu une sale série, mais ils n'ont pas perdu. En fait, ils ont enchaîné 3 nuls, non? 3-4 nuls.
Ouais,
je
mais,
crois,
voilà,
donc,
voilà,
mais ils ne perdaient pas du coup.
On comptait les nuls, ouais.
Ouais. Okay.
Donc, on va parler basket. Hein. Combien de points et de passes décisives LeBron James a fait lors du match face
allez,
au Phoenix? À Phoenix.
Au Phoenix.
Au Phoenix.
Enfin, à Phoenix, ouais.
Les vrais Knicks.
LeBron James a fait combien de points?
Gianni.
C'était hier soir.
Gianni. Bah, il a dû faire 28 points, 8 passes.
T'as 8 passes décisives, mais t'as pas les points.
Gianni.
Vas-y.
31 points.
Non.
Gianni.
C'est plus ou pas?
C'est moins.
Gianni.
À moi.
Antoine.
8 passes et 24 points.
Attends, déjà.
C'est pas ça.
Gianni.
Quentin.
Vas-y.
8 passes et 25 points.
Non.
Gianni,
c'est pas ça.
Gianni.
C'est moins que 25.
Gianni.
Ah, c'est bon.
Du coup, 8 passes et 19 points.
Non.
8 passes et 17 points.
Non.
Gianni.
Quentin.
8 passes et 20 points.
Plus.
Quentin, 8 vas-y. Passes et 21 points.
Gianni, 8 passes et 22
vas-y,
points.
Vas-y, Gianni, je te la
accorde. Non, mais déjà, oh, j'ai trouvé les passes. Donc...
Oui.
Vas-y. Ah ouais, on va te faire plaisir.
Alors, on va parler rugby.
Ah,
ça
ne vous
dérange pas?
Allez, salut.
Le successeur de Jacques Brunel au poste de sélectionneur des Bleus sera dévoilé quand?
À quand?
Demain.
En tout cas, belle
non.
question.
Pas demain.
Gianni?
Oui, vas-y.
Le 12 décembre.
Non.
Antoine, avant le début de la Coupe du Monde, genre juste avant
2019, oui. C'est après.
Ah, mais.
Pas avant.
Ah bah. Il a faux alors, il a tout faux.
Ouais, mais il se rapprochait.
Mais c'est tout.
Non, 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 c'est un fail. C'est un fail.
Non,
pas de points pour Antoine.
Non,
pas de points pour Antoine.
Ouais, qui c'est qui décide?
Mais c'est. Ouf.
Bah, pas
allez,
toi,
un demi-point peut-être, je sais pas.
Un demi-point, voilà.
Il y a un putsch là.
Mais attends, c'est tout faux. Avant, après, ça change tout.
Non, c'est faux, vraiment.
Bon, bah, on va aller. Pas de points, de toute façon, je suis déjà devant. Donc.
Fais pas les.
Bon, allez. J'ai combien de questions à dire encore?
T'en as fait combien?
3, bah c'est ta dernière.
C'est la dernière.
Bon, je fais une dernière question, mais elle sera vraiment facile. C'est vraiment rapidité, question de rapidité.
Okay. Allez.
Quentin.
Quel long.
Non, mais.
Ah, lui, il a perdu déjà.
C'est
voilà.
Rapide. Après la question. Quels ont été les buteurs face à Arsenal?
Gianni.
C'est Antoine qui a parlé le plus vite.
Putain, je sais pas.
Gianni.
Double d'Aubameyang.
Voilà.
Un but de la Lacazette.
Oui.
Et
Quentin,
Gianni,
Torreira.
Non,
et Lucas Torreira.
Bon. Et pour Tottenham, c'est pas fini.
Gianni.
Quentin.
Non, mais attends, il prend toute la. Non, je l'ai dit avant. J'ai dit
avant. Gianni, vas-y.
D'ailleurs, et Harry Kane.
Bon, bah, un demi-point.
Voilà, question de rapidité.
Putain, on a joué notre vie sur ce quiz. Hein.
Ouais,
c'était tendu.
C'était très serré.
J'ai une dernière question hein, si vous voulez.
Allez, la question à 1 milliard de points.
La question à 13 milliards de points.
Par contre,
attendez. Je note
difficile.
Juste que sur le tableau, il y a Emeric qui est noté avec un E.
Voilà. C'est pour différencier bon. Antoine.
Oui,
c'est
bah
pas
oui.
Grave.
C'est
bah oui. Voilà. Logique.
Faut suivre un peu.
Cette question est très difficile. Ça vaut 1 milliard de points, comme tu as dit. Dans
non,
l'histoire.
Non, 13 milliards de
13
points.
Milliards.
Ouais, d'accord.
Quel intérêt de faire les autres questions?
Dans l'histoire du foot européen. Qui garde donc le record de victoires d'affilée au début de championnat en sachant que Paris.
Ah, j'ai pas entendu la question, on recommence.
Antoine.
Gianni.
Arsenal.
Gianni. Non. Gianni.
Attends, j'ai pas entendu la question.
C'est quoi la question? Attends,
je répète
la
question.
Le record avant le PSG.
Voilà.
Tottenham.
Mais de non. Quoi non, mais de quoi?
Ah, mais en Ligue 1 ou.
Ah, en Ligue 1.
Bah, c'est pas
Arsenal. Non, pas en Ligue 1, pas en Ligue 1. En Europe.
Mais c'est Arsenal.
C'est Tottenham, non. C'est de la saison 65-60.
Oui, c'est Tottenham.
Non. Oui, c'est. Moi, j'avais pas
Tottenham. C'est une équipe de quel championnat?
Attends, si, le Bayern de Munich.
Non. c'est le championnat, c'est le championnat portugais.
Antoine, FC Porto.
Non, Benfica.
Voilà, Quentin, Benfica.
Mais non, ouais, accordé à Gianni.
C'était la saison 72-73.
Hein, mais moi j'étais pour le coup j'étais persuadé que c'était Tottenham parce que je crois c'était que je l'avais aussi, fait, je l'avais vu, fait dans un
c'était
quiz,
peut-être
en fait.
Les 5 plus grands championnats ça peut-être
oui.
C'était les 5
oui,
plus grands
oui, championnats on comptait pas les Farmers League c'est vrai
mais là je en tout dans toute l'Europe
moi je vois
et
les,
c'était 23
les chiffres
victoires.
Ne, non mais les chiffres ne mentent pas
13 milliards pour Quentin.
13 milliards voilà
c'est 13 victoires d'affilée Benfica.
C'est sa cote sur le marché des transferts à Villefranche-sur-Saône
23 victoires d'affilée
pour salut la calade.
On salue Villefranche et son magnifique cinéma.
On va saluer tout le monde, bah, du coup
ouais. Bah, du coup, on n'a personne à saluer, donc...
Ouais, mais ceux qui nous écoutent. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent,
c'est ce que je dis, on n'a personne à saluer, c'est ce que je dis.
Ah oui, c'est vrai.
Donc voilà, donc merci de nous avoir écoutés, si vous avez écouté, et puis on se retrouve pour la semaine prochaine.
Allez, ciao.